Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le Parlement européen est réuni à partir d'aujourd'hui à Strasbourg en session plénière. Ça fait partie du fonctionnement habituel de l'Union européenne où le Parlement, la Commission et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de 28 pays, 27 bientôt après le Brexit, chacun avec leurs contraintes doivent se mettre d'accord pour faire avancer l'Europe et ce n'est pas facile. Avec le Brexit, les régionalismes, avec la montée des nationalismes et des populismes anti-européens, Emmanuel Macron voudrait réformer mais tout ça et n'est pas contre l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses entre ceux qui veulent davantage d'intégration. L'Europe peut-elle continuer à fonctionner de la même manière? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Patrick Martin-Genier, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est aux éditions Studirama. Et Pierre Verluise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du site géopolitique francophone diploweb.com et co-auteur du livre « Géopolitique de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural ». C'est aux éditions des Presses universitaires de France. Première question, est-ce que l'Europe fonctionne correctement actuellement? Les conseils européens à 28 autour de la table, avec souvent l'unanimité, est-ce que c'est viable, Patrick Martin-Genier?
Alors, est-ce que c'est viable? C'est vrai que depuis quelques années, ces institutions européennes ont de plus en plus de difficultés pour avancer. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais avant, lorsqu'on était à 6, puis à 15, puis à 24, et maintenant à 28, à 27 bientôt, et peut-être 30 après également, c'est sûr qu'on a de plus en plus de difficultés. Pourquoi? Parce que les pays ne sont pas d'accord entre eux pour faire avancer l'Union européenne, notamment la construction européenne. Donc ça, c'est de plus en plus difficile, surtout lorsque, sur certains sujets, il faut voter à l'unanimité, alors que sur d'autres, on peut mieux voter, par exemple, à la majorité qualifiée. On a parlé, par exemple, de la révision de la directive sur les travailleurs détachés. C'est très difficile, mais là, on peut voter à la majorité qualifiée. Mais sur les grandes orientations stratégiques, il y a de plus en plus de divisions qui mettent en danger l'existence même de l'Union européenne.
Pierre Verluise, c'est aussi votre analyse. C'est difficile de faire tourner la bicyclette, si je peux dire ça comme ça.
Il y a eu 7 élargissements. On est passé de 6 à 28. Il y a des élargissements de nature différente, mais pour les plus récents, ceux de 2004, 2007, 2013, l'idée, vous vous en souvenez peut-être, en 2004, c'était dormez tranquille, maman s'occupe de tout, c'est-à-dire la Commission européenne, demain sera comme hier, et ça ne changera rien. On sera à 25, comme nous étions à 15, et plus tard à 27, 28. En réalité, c'est une illusion. Devenir de plus en plus nombreux, c'est à la fois très heureux, surtout si c'est pacifique, c'est formidable que l'Union européenne s'élargisse de manière pacifique, mais en même temps, forcément, ça change la nature du sujet, ça change les relations, la prise de décision, ça change les cultures, on le voit bien sur les questions migratoires, par exemple, la culture d'anciens pays qui ont été des puissances coloniales n'est pas la même que les pays d'Europe centrale et orientale qui ont souvent été hors des flux migratoires pendant longtemps. Donc ça change la donne et finalement notre faiblesse c'est de ne pas avoir su penser l'Union européenne et admettre qu'elle changerait et devait encore changer de nature.
On est toujours dans cette problématique, cette dualité entre élargissement et approfondissement, Patrick Martin-Genier.
Absolument. Depuis le début, il était entendu que l'Europe, on devait d'abord approfondir, ensuite achever et élargir. Et là, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, vous me passez l'expression. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu des exigences politiques. Les anciens pays de l'Est qui se sont libérés du joug communiste, naturellement, il y a eu une exigence politique. Et lorsque les pays se sont démocratisés, ça a été le cas également de la Grèce, de l'Espagne, en leur temps,
eh bien, et
politiquement, du Portugal, il a fallu effectivement, après la dictature dans ces pays, les accueillir. C'était une exigence politique. Mais ce faisant, nous n'avons pas suffisamment réfléchi à la signification politique de l'Europe. Et donc, on n'a pas pu aller bien loin sur l'approfondissement de la construction européenne. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on paye en termes d'inconvénients et de pots cassés.
Pierre Verluise, est-ce que ces nouveaux entrants, ça fait quand même quelques années maintenant, ils ont, eux, une vision encore différente de ce qu'est l'Union par rapport à l'Europe des Six, par exemple?
Ces nouveaux entrants sont nombreux, donc ils sont chacun différents. Il y en a 10 qui sont entrés en 2004, mais il y avait 2 qui n'étaient pas d'Europe centrale orientale, c'est Malte et Chypre qui sont à part. On signalera au passage que Chypre est entrée divisée et reste divisée, ce qui est assez étrange quand même, aujourd'hui, en 2018.
Oui, c'est assez peu commun, c'est vrai.
On en parle peu, on le passe sous la trappe, mais c'est quand même une difficulté. Il y a eu deux autres pays d'Europe centrale en 2007, et puis un pays d'Europe balkanique plus récemment, la Croatie. Donc ce sont des pays différents, c'est des pays qui changent, c'est des pays qui n'auraient jamais admis qu'on leur ferme la porte de l'Europe, parce qu'ils se pensent, on pense à nos amis hongrois ou polonais, ils se pensent autant européens que nous, il y en a même qui vous diront plus que nous, parce que pendant la guerre froide, ils ont gardé une identité européenne, et c'est pas faux. Et bon, mais d'un autre côté, une fois rentrés dans la cour, ils ne respectent pas toujours, la Hongrie depuis 2010, la Pologne depuis 2015, les règles du jeu, les règles de la séparation des pouvoirs, les règles de l'état de droit. On voit que la Pologne, c'est quand même étrange, la Pologne, quand on sait le rôle qu'elle a joué dans l'ouverture du rideau de fer, combien sa société civile a porté des personnages comme Lech Walesa, et on voit aujourd'hui cette Pologne prendre des chemins étranges, se faire taper sur les doigts, menacer et directement viser, elle n'est pas seulement menacée, elle est visée par l'activation de l'article 7 qui pourrait éventuellement suspendre ses droits de vote. C'est très étrange, cette histoire.
Patrick Martin-Jeunier, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, c'est un petit peu différent parce que bon, il y a des populistes qui sont entrés au gouvernement, mais c'est pas la même histoire, évidemment. Est-ce que ce sont des pays qui font un pas de côté ou un pas de retrait vraiment dans la construction européenne en ce moment?
Ce qui est grave, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va se désolidariser de plus en plus de l'Union européenne. Quand on voit en Hongrie ce qui s'est passé, Monsieur Orbán va instrumentaliser le peuple hongrois pour voter contre la Commission européenne. Ils ont exigé qu'on vote contre le diktat de la Commission européenne, alors qu'ils ont bénéficié de fonds européens, c'est très important. La Pologne.
On parle de l'accueil des réfugiés là.
Oui, mais pas seulement. C'est tout ce qui concerne l'Union européenne. Ils considèrent que la Commission européenne va trop loin, mais également, vous avez tout à fait raison, l'accueil des réfugiés. D'ailleurs, la Hongrie a eu tort devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Pologne, c'est la même chose. On trouve aujourd'hui un pouvoir très autoritaire qui ne veut plus être solidaire de l'Union européenne sur un certain nombre de choses, tout en prenant tous les fonds européens. Et vous l'avez dit tout à fait justement, eh bien, il porte une atteinte à l'état de droit, notamment aux juges constitutionnels, dont il considère que ce sont des gens qui vont empêcher Parlement de légiférer, notamment sur l'avortement, puisqu'ils sont en train de légiférer sur la restriction considérable du droit des femmes à avorter. Et enfin, quant à l'Autriche, c'est grave également parce qu'on cite un parti populiste. Pour moi, ça va plus loin que cela. C'est un parti d'extrême droite dont certains puisent leur source idéologique dans le nazisme. Donc c'est grave. Oui, c'est grave.
C'est grave. Est-ce que, Pierre Verluise, ces désolidarisations de certains pays de l'Europe de l'Est entraînent une plus grande solidarité des membres fondateurs, pour le dire clairement.
Ça serait formidable si c'était ainsi. Mais vous avez dit l'un et l'autre le mot important, c'est le mot solidarité. C'est-à-dire que la construction européenne, c'est quand même basé sur l'idée de la solidarité. La solidarité entre les régions les plus riches et les moins riches, la solidarité entre les États. Et ce qui est questionné à travers les années récentes, on peut remonter au moins au début du 21e siècle, c'est cette idée de la solidarité avec des régions comme la Catalogne, qui est une région plus riche que le reste de l'Espagne, qui tout d'un coup décide de se séparer. Ce sont des pays qui bénéficient de fonds européens et qui refusent, pour certains, dans certains cas, d'appliquer des mesures de relocalisation de demandeurs d'asile, comme la Commission européenne le demande. Je souligne cependant, pour en venir à votre question, que d'anciens États membres ne sont pas toujours exemplaires. La France, si j'ai bien compris, n'a pas relocaliser sur son territoire tous les demandeurs d'asile qu'elle aurait dû faire. Donc il faut aussi balayer devant sa porte. Mais le fond de l'idée, c'est la question de la solidarité. Et on voit qu'il y a une espèce d'épuisement de l'idée de la solidarité. Et ça renvoie à un autre sujet, qui est la question du déficit démocratique de la construction européenne, qui peut s'expliquer pour des raisons historiques, mais qui pénalise le processus.
Patrick Martin-Jeunier, toujours dans le cadre de la réunion des anciens membres fondateurs. Est-ce que le Brexit a ressoudé les Européens ou pas?
Je pense que d'une certaine façon, ça les a ressoudés, non pas parce qu'il y avait un esprit, une volonté de faire repartir la construction européenne, mais parce que ça a mis en danger toute l'Union européenne et la construction européenne. Et je crois qu'il y a un trait permanent dans la construction européenne. Lorsque un danger a menacé l'Europe, qu'il s'agisse, on peut remonter à la guerre de Corée, on peut remonter à des événements très importants, eh bien, les États se sont sentis obligés de se ressouder pour survivre et pour continuer à avancer. Et il était hors de question que le Brexit vienne effectivement casser 60 ans de construction européenne. Donc effectivement, et c'est pour cela que la Commission est très dure, les chefs d'État et de gouvernement sont très durs sur les négociations relatives au Brexit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va relancer une phase de construction européenne, parce que pour l'instant, on essaye de démêler les chevaux en quelque sorte du Brexit, mais on ne s'est pas encore mis d'accord sur ce que devait être la refondation de l'Europe, pour reprendre une expression du président de la République.
Pierre Verluis, vous y réagissez.
Ce que le Brexit démontre, c'est l'idée que la construction européenne n'est pas irréversible et qu'on peut passer de la construction européenne à la déconstruction européenne et à, derrière, je le souhaite, à la reconstruction. C'est un processus historique permanent. Mais le Brexit, c'est pas un coup pour rien, c'est pas anodin. C'est 65 millions d'habitants qui sont susceptibles de quitter l'Union européenne, qui passerait de 510 millions d'habitants à 443 millions d'habitants. Donc on va, dans les classements, baisser d'un coup. En termes de PIB...
C'est la cinquième ou sixième puissance mondiale, hein, la Grande-Bretagne, la touche-touche avec la France, en fonction du niveau de la livre.
En termes de PIB, le Royaume-Uni, c'est 14% du PIB de l'UE. Donc on va dégringoler d'un coup, quand ça va se faire, probablement, en 2019, mais ça n'est pas encore fait. Enfin, sous l'angle stratégique, qui est extrêmement important dans cette affaire, le Royaume-Uni, c'est une puissance nucléaire, c'est un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, et tout ça, ça nous amène à la question de l'angle stratégique sur ces questions. Ce qui a été dit tout à l'heure sur la raison pour laquelle on a élargi l'Union européenne sous l'angle politique est parfaitement justifié, mais il faut ajouter aussi, et c'est complémentaire, qu'il y a un angle stratégique. Pourquoi est-ce qu'on a élargi? Parce que les anciens satellites et les anciennes républiques socialistes soviétiques qui avaient échappé à la Russie étaient suspendus dans le vide dans les années 90. Donc la question,
c'était... Il fallait les arrimer.
On fait quoi? On fait quoi? On les laisse suspendus dans le vide, devenir une menace, ou on les accroche à quelque chose? On les a d'abord accrochés à l'OTAN pour ce qui est de la Pologne, notamment dès 1999, c'est-à-dire 10 ans seulement après l'ouverture du mur de Berlin, la République tchèque, la Hongrie, et puis dès 2004, on les a fait rentrer dans l'Union européenne. Donc tout ça, ça montre que l'Union européenne, c'est pas seulement l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un contexte géopolitique et stratégique très large, avec les États-Unis et avec la Russie. Aujourd'hui, 22 des 28 États membres de l'UE sont membres de l'OTAN, ce que la plupart des gens ignorent. Donc quand on réfléchit politique étrangère et de sécurité commune, PSDC, il faut prendre ça en compte. C'est que l'OTAN pèse lourd. Or, l'OTAN, aujourd'hui, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est Monsieur Trump. Monsieur Trump, il est un peu imprévisible, semble-t-il. Et ça pose la question, comment est-ce que l'Allemagne et la France, en particulier, peuvent, dans ce contexte, saisir la balle au bon pour faire quelque chose d'intéressant, peut-être.
Alors, on arrive assez facilement à la conclusion de vos interventions qu'il faut sans doute réformer un petit peu le fonctionnement européen. Et là, c'est beaucoup plus dur. Hein, tout le monde n'est pas d'accord. Emmanuel Macron veut refonder l'Europe. C'est quoi son idée principale, Patrick Martin-Genier?
Écoutez, c'est une expression qui est très importante. D'ailleurs, je l'avais utilisée dans mon ouvrage avant, pendant la campagne présidentielle. Ça a été repris en partie par son
Vous
équipe.
Vous l'avez inspiré.
Je ne sais pas si j'ai inspiré, mais en tout cas, le thème de la refondation, elle existe avant qu'Emmanuel Macron ait été élu. Il l'a repris à son compte. C'est très bien. Ça veut dire quoi aujourd'hui pour Emmanuel Macron? C'est-à-dire, il a parlé d'une Europe qui protège. Donc, on a l'impression que l'Europe ne protège pas suffisamment. Donc, il souhaite relancer l'Europe. On l'a vu sur la directive des travailleurs détachés, l'Europe de la défense, mais refonder l'Europe, pour moi, ça va bien plus loin. Hein, il ne s'agit pas de mettre des pansements sur des petites plaies. Hein, si on veut véritablement relancer et refonder l'Europe, il faut qu'on la réforme totalement. Vous parliez tout à l'heure du déficit démocratique de l'Europe. Ça veut dire quoi? Hein, de quelle façon va-t-on réformer l'Europe? Il faut effectivement faire en sorte que la Commission soit plus contrôlée sur le plan législatif. Nous avons quand même un Parlement européen. Il faut renforcer le contrôle du Parlement européen et essayer de développer ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire faire en sorte que les décisions soient prises peut-être plus au plus proche du terrain. Et c'est pour cela, il y a un déficit démocratique parce que le citoyen n'a pas l'impression que l'Europe va véritablement s'intéresser à ses affaires, alors que finalement c'est faux parce qu'il y a énormément de directives qui ont des conséquences considérables sur la vie des citoyens.
Une des idées d'Emmanuel Macron, c'est de créer un un ministre des Finances de la zone euro, d'intégrer davantage la zone euro. La zone euro, c'est 19 pays en discontinuité territoriale, il faut le préciser. Pierre Verluise, est-ce que la zone euro, 19 pays comme ça, est-ce que c'est le bon format pour essayer d'avancer un peu plus?
On a des contraintes communes. Ce qui est certain, c'est que on se demande aujourd'hui encore pourquoi on a créé l'euro. Le fond du sujet, il est là. C'est-à-dire qu'on a créé l'euro pour sortir d'une situation stratégique bien particulière, pour arrimer l'Allemagne à l'Europe de l'Ouest et à l'Union européenne. Mais sur le fond, on espérait de la zone euro qu'elle allait créer derrière de l'intégration politique. Cette intégration politique, elle ne vient pas. La France ne respecte pas toujours ses engagements, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle se fait taper sur les doigts très régulièrement.
Une fois par an.
Et donc, elle a l'obligation d'abord de balayer devant sa porte, c'est-à-dire de respecter ses engagements, de mettre les équilibres où il faut et de réformer ce qu'il y a à réformer. Une fois que cela sera fait, alors la voix de Paris pèsera plus lourd. Mais ce qu'il faut espérer, c'est que dans une perspective positive, la France et l'Allemagne arrivent ensemble à avancer. La France s'étant relégitimée en ayant fait les efforts nécessaires, et l'Allemagne pensant le monde de manière géopolitique.
Alors la question de l'Allemagne qui est actuellement sans gouvernement, à la recherche d'un gouvernement, d'une majorité, d'une éventuelle grande coalition, l'Allemagne est quand même historiquement, enfin ces dernières années, très circonspecte sur une gouvernance spécifique à la zone euro. Est-ce que l'axe franco-allemand reste majeur de toute façon, Patrick Martin-Genier? Il faut que
alors,
ça fonctionne, quoi.
Vous avez tout à fait raison de dire que l'Allemagne est peut-être elle est toujours aussi européenne, mais elle n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que la France. Vous avez tout à fait raison de souligner le fait qu'on est très circonspect à Berlin sur le renforcement politique de la zone euro. Personne n'en veut, hein, en d'autres termes, parce qu'on considère qu'on a assez créé d'institutions et qu'on ne veut pas entendre parler d'un parlement de la zone euro. Donc c'est pas question de l'entendre. Et d'ailleurs, en ce moment en Allemagne, le SPD est en train de négocier avec Angela Merkel et M. Martin Schulz, qui a été président du Parlement européen, à dire oh, il faut aller vers une Europe politique fédérale. Et tout de suite, on a dit à la CSU de CDU, non, on n'en veut pas du tout. Donc il y a quand même des divergences et aujourd'hui ça fait plusieurs mois que l'Allemagne est paralysée et qu'elle ne peut accompagner effectivement la France dans un projet européen. Mais en même temps, en effet, comme l'a rappelé le président de la République à Rome récemment, si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, c'est un grain de sable qui va effectivement enrayer toute la machine de l'Union européenne.
Pierre Verluise, vous voulez
oui,
réagir ?
Le paradoxe est le suivant. D'expérience, l'histoire démontre que quand la France et l'Allemagne fédérale œuvre de concert, ça débloque des dossiers, ça fait avancer. Si Paris et Berlin ne font rien, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a une difficulté, c'est qu'il ne faut pas que Paris et Berlin se comportent en directoire. Parce que les autres États, qui sont à la fois en demande de locomotive, à ce moment-là, ont leur susceptibilité bien compréhensible qui entre en ligne de compte et ne veulent pas que ça se décide à Paris et Berlin.
C'est un petit peu ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron à Rome la semaine dernière. Patrick Martin-Genier a essayé de construire parallèlement à l'axe franco-allemand un axe Paris-Rome.
Oui, enfin, l'Italie n'a pas le poids de l'Allemagne sur le plan psychologique, historique, si vous voulez. L'Italie est un pays, et j'aimerais le dire ce soir, qui est en voie d'élection. Il y a des élections législatives le 4 mars. Et je peux vous dire que c'est un pays historiquement fondateur de l'Europe et dans lequel le parti populiste Cinque Stelle, 5 étoiles, est également en forte progression.
En tête dans les sondages, 30% d'intention de vote actuellement.
Voilà, donc ça veut dire que ça risque encore de mettre en cause l'Italie dans la perspective de cette refondation de l'Europe et malheureusement dans un mouvement général de populisme en Europe.
Alors quel autre type de coopération renforcée à part la zone euro, à part l'axe franco-allemand ou les axes bilatéraux? Est-ce qu'il faut revenir un peu à l'Europe des six de départ? Qu'est-ce que vous diriez, vous, Pierre Verluise, en quelques mots?
Moi, je pense que la question d'une Europe à plusieurs vitesses peut être tranchée assez rapidement dans le sens où la construction européenne a toujours été à plusieurs vitesses. Donc il faut arrêter de se poser des questions en prenant un air dramatique en disant va-t-on vers une Europe à plusieurs vitesses? On y est depuis le début. L'Italie du Sud dont on parlait à l'instant, elle était à des années-lumière du Luxembourg en 1957. Je parle de la région de l'Italie du Sud. Aujourd'hui, l'Union européenne est à plusieurs vitesses aussi en termes, si vous comparez le PIB par habitant des régions les plus pauvres de la Roumanie ou de la Bulgarie et du Luxembourg, vous allez voir qu'il y a plusieurs vitesses. Il y a les pays qui sont dans l'euro, les pays qui sont dans l'OTAN. Donc, c'est logique, ça va continuer comme ça.
Merci beaucoup à vous, Pierre Verluise, et à vous également, Patrick Martin-Jeunier. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver et nous podcaster sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, ainsi que sur vos téléphones. L'application RFI Pure Radio est disponible au téléchargement sur les deux principales plateformes. Prochain débat demain, même heure, même endroit. D'ici là, bonjour chez vous.